Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand c'est non, c'est non. Seul le oui veut dire oui. Mais est-ce si sûr? Suffit-il de dire oui pour consentir? Pensez à tous ces oui extorqués, à ces oui qui veulent dire non, ou même à ces silences que l'on décide de prendre pour un oui. En route sur les chemins de la philosophie, aujourd'hui un proverbe qu'il nous faudra transformer, qui ne dit mot ne consent pas toujours.
Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois?
J'accepte.
Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour... Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme.
Bonjour Philippe Urfalino.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Difficile de prendre pour un consentement le silence ou le cri de la reine Margot qui s'apprête à épouser Henri IV.
Oui, bien sûr, c'est un cas extraordinaire puisque vous savez que le oui prononcé au mariage est l'exemple canonique de ce qu'on appelle les performatifs en linguistique. Mais justement, dans ce cas, puisque le oui vaut une action, vaut une acceptation, on est dans le cas où le problème n'est pas celui de l'interprétation, de l'absence d'expression, mais de la signification de l'expression. Mmh. Hein? Alors évidemment, le oui peut être forcé, comme dans ce cas-là. Bon. La problématique du consentement, qui est celle de votre émission, elle est justement en deçà ou au-delà de ce premier point. Hein? Le premier point, c'est est-ce que l'expression est sincère, forcée? Et ensuite, quelle est sa signification? La question du consentement, généralement, c'est le problème de la signification de l'approbation. Est-ce que l'approbation est explicite? À ce moment-là, on est dans le oui, dans l'expression. Ou est-ce que on peut interpréter l'absence d'expression comme une approbation tacite? Et le problème se pose d'abord à un niveau simplement du vocabulaire, parce que le mot consentement peut vouloir dire deux choses. Consentir, ça peut vouloir dire approuver. Et à ce moment-là, implicitement, il y a l'idée que consentir, c'est exprimer le consentement. Ou alors, consentir, on peut lui donner le sens, un sens qui va s'opposer à approbation, qui sera l'idée d'une approbation tacite. Donc, faut d'abord s'accorder sur le sens du mot, pour ensuite analyser le problème.
Ce qui est toujours une bonne manière de commencer. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS. Vous avez publié en 2011 un ouvrage intitulé « L'invention de la politique culturelle ». Vous avez publié en 2017 un numéro de la revue « Raison politique » dirigé par Magali Besson sur les entités collectives. Vous achevez, je crois, un livre sur la décision collective à paraître l'an prochain. C'est donc d'un point de vue plus politique que cette question de consentement vous intéresse. J'allais dire, ça redouble presque la difficulté, parce que déjà dans un cadre de mariage d'individu à individu, oui. On n'est pas toujours d'accord sur ce que signifie que le oui prononcé et la valeur de consentement que ce oui induit. Politiquement, c'est-à-dire à l'échelle collective, il est quasiment impossible de pouvoir mesurer de quoi le consentement est fait.
Oui. Alors justement, dès l'émergence de la philosophie politique moderne, au XVIe, XVIIe siècle, la question du consentement va arriver en politique, puisque l'on va, je pense notamment à Locke, qui le dit expressément, l'idée c'est que l'obligation politique est fondée par le consentement des individus à entrer en société. Alors c'est un premier niveau de la signification politique du concept de consentement, c'est-à-dire que ici, c'est qu'est-ce que c'est que consentir ? C'est consentir à un ordre politique. J'accepte d'obéir pour certaines raisons aux gouvernants. Donc pour moi, c'est le premier sens, si vous voulez, de l'application du concept de consentement à la politique. Il y a un deuxième sens qu'on abordera sans doute, et qui est un peu différent, qui est le consentement dans les processus de décision, et notamment dans ce que j'ai appelé le consensus apparent ou la règle de non-opposition, où là, c'est l'absence d'expression qui, d'une certaine manière, peut permettre la prise de décision. Donc ce sont deux sens différents de consentement, parce que le consentement, dans le sens très général d'acceptation de l'obligation politique, ne s'exerce pas face à une proposition précise. Alors que dans le cas de, on y reviendra, de la décision par consensus, dans le cas d'une assemblée où quelqu'un fait une proposition et où l'absence d'objection à cette proposition fait que cette proposition devient une décision, ici, c'est le fait que l'on n'exprime pas sa désapprobation qui vaut consentement et acceptation. Ça veut dire que dans l'usage politique qu'on peut faire du concept de consentement, je pense qu'il y a deux situations. La plus simple, par certains côtés, c'est le consentement réagit à une initiative. Il réagit à une proposition. L'autre sens, c'est celui qu'invoque Locke et que conteste Hume, c'est lorsqu'on vous dit « Ah ben, vous possédez une petite maison dans ce pays, ben donc vous devez obéir au roi, au gouvernant, etc. »
Alors on va entendre ce texte de Locke, hein, issu du second traité du gouvernement civil à 1690, parce qu'il est fondamental pour la pensée politique moderne et qu'il fait vraiment du consentement la base même de toute forme de communauté. Un mot avant qu'on entende ce texte quand même, vous avez dit « celui qui consentit, c'est celui qui accepte d'obéir aux lois ». Ça veut dire que le consentement, dans la dimension politique, a toujours une dimension d'obéissance. On consent à une contrainte.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas du mariage, par exemple. Enfin, si, aussi.
Ah ben, c'est...
Mais donc, non, parce que... C'est dire oui à quelque chose qui peut aller contre soi.
Dans les deux cas, c'est pensé comme un contrat. Soit le contrat de mariage, soit le contrat social.
Et comme une contrainte par bien des aspects.
Voilà.
Bon, on va entendre ce texte tout de suite, interprété par Anne Brissier.
Lorsqu'un certain nombre d'hommes ont, grâce au consentement de chaque individu, formé une communauté, ils ont par là même fait de cette communauté un corps, doté d'un pouvoir d'agir en tant que corps, ce qui n'est possible que par la volonté et la décision de la majorité. Car ce qui fait agir une communauté quelconque, ce ne peut être que le consentement des individus qui la composent. Et puisqu'il est nécessaire à ce qui constitue un corps de se mouvoir dans une seule direction à la fois, il est nécessaire que ce corps se meuve dans la direction où l'emporte la force la plus grande, c'est-à-dire le consentement de la majorité. Dans le cas contraire, il est impossible qu'il agisse ou qu'il continue de former un corps ou une communauté, ce que la volonté de chaque individu qui s'y était joint avait pourtant voulu qu'il soit. Ainsi, chacun est obligé, par ce consentement, de se soumettre à la majorité. C'est pourquoi nous voyons que, dans les assemblées auxquelles des lois positives donnent le pouvoir d'agir, lorsque la loi qui leur confère le pouvoir ne fixe aucun quantum, la décision de la majorité passe pour la décision de l'ensemble. Car si le consentement de la majorité n'est pas reçu en raison comme l'acte de l'ensemble, et s'il n'oblige pas chaque individu, seul le consentement de chaque individu pourra faire qu'un acte passe pour l'acte de l'ensemble. Mais un tel consentement est presque impossible à obtenir jamais.
Ce que ce texte a de remarquable, Philippe Urfalino, c'est qu'une de ses conclusions, on va prendre le temps de le comprendre ensemble, hein, parce qu'il est vraiment décisif et chaque terme compte. C'est qu'une des conclusions qu'on peut en tirer, c'est que la majorité, qu'on associe souvent à l'esprit de la démocratie, eh ben, n'est pas nécessairement la méthode la plus juste pour prendre une décision démocratique.
Oui, alors la question de la justice n'est pas immédiatement présente, mais elle va arriver bien vite. Alors, ce qui est remarquable dans ce texte, bon, on peut prendre d'autres auteurs, d'autres philosophes politiques modernes qui, eux aussi, vont nous expliquer qu'une fois que la société est instituée, il faut passer à la règle de majorité, parce que sinon la société ne peut pas prendre de décision. Donc l'idée, la première justification de la règle de majorité, c'est simplement que un corps social ne peut pas prendre de décision à l'unanimité parce que l'unanimité est pratiquement empiriquement trop peu fréquente. Voilà. On ne réussit jamais à avoir l'unanimité. Ça veut dire que indirectement au moins et parfois explicitement, ce qui est le plus valorisé comme règle de décision, c'est l'unanimité. Donc la majorité est justifiée par défaut dans ce cas-là. Alors c'est d'ailleurs beaucoup plus tard qu'on découvrira et qu'on pourra trouver des justifications au fait que l'unanimité est une mauvaise règle de décision, et notamment elle est très inégalitaire. Mais elle est très inégalitaire parce qu'elle donne toujours le pouvoir à une minorité, ne serait-ce qu'à une seule personne qui peut bloquer toutes les décisions.
Parce que l'unanimité, c'est consulter un groupe, disons d'une vingtaine de personnes, pour une décision, et on ne passe à l'acte de décision, à proprement parler, que dès lors que les 20 personnes sont d'accord pour décider de cette manière-là. En quoi est-ce que c'est inéquitable ? En quoi est-ce que ça...
Eh bien, vous donnez... Alors, la démonstration avait d'abord été faite par Kelsen. Elle est ensuite, dans son livre, premier livre magnifique sur la démocratie, sa nature et sa valeur. Ensuite, elle a été démontrée mathématiquement. C'est-à-dire que la seule règle de majorité, si on prend des décisions en votant, la seule règle de décision qui donne un poids égal à chaque individu, c'est la règle de majorité. Car sinon, vous donnez plus de poids à un petit groupe. Ça veut dire que dans ce petit groupe, chaque individu a plus de poids que les individus qui sont dans le groupe plus important. Mais à l'époque, lorsque ces auteurs écrivent sur la règle de majorité, ce qu'ils ont en tête, c'est l'égalité des voix au sens où chacun pèse le même poids, au sens où un homme a une voix, un citoyen a une voix. Mais l'égalité en termes de, je me suis mal exprimé, en termes de poids dans la décision, elle est donnée par la règle de majorité. Mais le point ici, ce n'est pas le point le plus important dans ce texte. Ce qui est je pense qu'il faut d'abord noter une chose simple, bien connue. Ce passage manifeste bien la révolution normative de la modernité. C'est-à-dire que l'on remplace la subordination naturelle de certains humains à l'égard d'autres humains, on la remplace par l'obligation morale de chacun. Donc c'est ça d'abord le point le plus important, si vous voulez.
C'est-à-dire que quiconque accepte de vivre en communauté, c'est-à-dire tout le monde, passe un contrat, peut-être tacite, qui stipule qu'il va obéir au gouvernement.
Tout à fait. Donc il faut bien se rendre compte que ça supplée, que ça remplace la subordination naturelle ou divine. Ce passage, c'est un passage du deuxième traité du gouvernement. Dans le premier traité du gouvernement, il faut se rappeler que John Locke fait une critique du livre de Robert Filmer, Patriarcat, qui justifie la monarchie par l'idée de famille primitive.
C'est ça.
Bon, la famille d'Adam, puis toutes les familles, etc. Et donc, le prototype de l'autorité politique devrait être l'autorité paternelle. Et donc, c'est contre cela que Locke construit son traité. Et donc, à la subordination naturelle des enfants au père et des hommes au roi, on doit obtenir autre chose, on doit avoir autre chose, qui est l'obligation morale de chacun vis-à-vis de la totalité du corps social. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'autre manière que la règle, que le respect de la règle de majorité. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez que chez Locke, c'est beaucoup plus net que chez les autres auteurs, la règle de majorité, elle est acceptée dès lors qu'on constitue le corps social.
Mais c'est ça qui est ambigu. Pour le coup, la question du consentement est elle-même charrie beaucoup d'ambiguïté, mais nous sommes nés... Nous naissons dans un certain pays et nous entrons donc en communauté dans ce pays. À aucun moment, nous ne disons vraiment oui, ni au pays lui-même, ni à la patrie. Alors, au gouvernement, quand on a le droit de vote, mais c'est encore une autre histoire.
Bien sûr.
Le consentement que Locke situe à l'origine même de l'existence politique d'une communauté, il est très difficile à nommer. Quand a-t-il lieu ? Où a-t-il lieu ?
Voilà. Alors là, on est dans le... Là, vous abordez la question du mythe du contrat primitif.
Ouais. Hein ?
Alors, dans son texte même, il prévoit deux cas de figure. Donc, on imagine le pacte social, la première réunion des hommes qui sont encore dans l'état de nature et qui font cet état civil, en décidant explicitement de s'unir et de s'obliger mutuellement. Bon. Mais il y a l'autre cas qu'il évoque également... lorsqu'il dit « quiconque a une propriété ou a jouissance d'une parcelle d'un territoire gouverné de manière manifeste, consent de manière tacite à obéir aux lois de ce gouvernement. Même chose pour quelqu'un qui viendrait simplement à passer dans ce pays. Donc vous avez ici l'introduction du consentement tacite. Donc chez Locke, vous avez le consentement express, c'est quand vous êtes vous contractez le contrat originel, hein, et puis ensuite le consentement tacite. Donc vous avez déjà les deux. Alors la question va être, mais est-ce que ce consentement tacite a un sens ? Hein, est-ce que si justement j'ai une parcelle de terrain, ben j'ai pu en hériter, je l'ai acheté, pourquoi cela devrait nécessairement impliquer que je doive obéir aux lois du pays ?
C'est le statut de la propriété privée.
Exactement, oui.
Et alors, comment répond-il à cette question ?
Ah ben, lui, il trouve qu'il a répondu, il estime dans son texte, il fait comme s'il avait répondu à la question. Donc il ne soulève pas cette objection. C'est les penseurs politiques du XVIIIe notamment, et David Hume principalement, qui va contester justement l'idée du pacte originel, du contrat originel, de sa pertinence, et donc qui va mettre en cause la pertinence du consentement tacite pour fonder l'obligation politique et plus largement la pertinence du consentement pour penser l'obligation politique, même si on imagine qu'il y a eu un consentement express initial.
On va donner la parole à Hume dans un instant, mais simplement encore un point sur la notion de consentement telle que l'emploie Locke. Pour lui, en fait, ce qui est important, ce concept de consentement, c'est la notion de liberté qui est présente. C'est celui qui dit oui librement.
Tout à fait. Tout à fait, puisque le point de départ, si vous voulez, c'est l'idée que les hommes sont libres dès lors qu'ils sont adultes et qu'ils ont la rationalité. Hein. Les enfants restent sous la tutelle des parents, bien sûr, mais une fois qu'ils sont adultes, ils se sont des agents rationnels libres. Ce qui veut dire, et là ça renvoie au passage de la subordination politique à l'obligation morale, ce qui veut dire qu'il n'obéit qu'à ce qu'il a consenti. Donc il y a bien obéissance, mais le fondement de l'obéissance, c'est la liberté. Je n'obéis qu'à ce que j'ai consenti. Je n'obéis à quelqu'un que parce que j'ai consenti à en faire le gouvernant.
Mais donc dans le consentement, il y a toujours aussi une forme, non seulement c'est un consentement à une contrainte, c'est ce qu'on a dit en début d'émission, mais il y a toujours aussi une forme de renonciation à autre chose. Dans la liberté politique, je renonce à ma liberté pré-politique, disons même individuelle.
Tout à fait, ça c'est tous les auteurs du contrat social nous donnent à choisir entre l'état de nature et l'état social. Donc soit on reste dans la liberté naturelle, soit on accepte ce qu'on appellera la liberté sociale, mais qui suppose justement qu'on se soumette aux lois.
Mais voilà, plus on explore les dimensions contenues par le terme de consentement, plus on comprend que c'en est loin du oui franc et affirmé, qu'au contraire c'est un terme qui est vraiment plein d'ambiguïté et de nuances.
Oui, oui, en tout cas pour en saisir le sens, il faut creuser beaucoup.
On ne gagne rien à dire que tous les gouvernements sont ou devraient être fondés à l'origine sur le consentement populaire. C'est entièrement confirmer ce que je défends. Je soutiens que les affaires humaines n'admettront jamais un tel consentement et n'en admet l'apparence que fort rarement. Mon intention n'est pas ici de rejeter l'idée que le consentement du peuple soit un juste fondement de gouvernement là où il se fait. C'est certainement le meilleur et le plus sacré de tous. Je prétends seulement qu'il ne s'est fait que très rarement, à un quelconque degré, et jamais ou presque, de manière complète. Je dis donc qu'il faut admettre que le gouvernement puisse avoir aussi un autre fondement. Dira-t-on, vivant sous la domination d'un prince qu'il est libre de quitter, que chaque particulier a consenti tacitement à son autorité et lui a promis obéissance ? Je répondrai qu'un tel consentement implicite ne peut avoir lieu qu'autant qu'on s'imagine rester maître de son choix. Mais si chacun pense que par fait de naissance, il doit allégeance au prince ou au gouvernement, il serait absurde de conclure à la réalité d'un choix ou d'un consentement qu'on aurait, en la circonstance, expressément abandonné et abdiqué. Peut-on dire sérieusement qu'un pauvre paysan ou un modeste artisan a le libre choix de quitter son pays alors qu'il ne connaît ni la langue, ni les mœurs des pays étrangers et qu'il vit au jour le jour du maigre salaire qu'il reçoit ? On pourrait aussi bien prétendre qu'un homme, en restant sur un vaisseau, consent librement à la domination du capitaine, alors qu'on l'a embarqué tandis qu'il dormait et qu'il n'a d'autre choix que de sauter à la mer et de périr en quittant le navire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. C'est le troisième temps de notre série d'émissions sur le consentement. Et si vous prenez l'émission en cours de route, nous sommes en pleine querelle entre Locke et Hume sur la question du consentement, justement, en compagnie de Philippe Urfalino. Alors, le texte que je viens de lire de Hume répond très clairement en tout point au texte de Locke et lui fait une objection qu'on pourrait commencer par caractériser ainsi. Au fond, la notion de consentement est très belle. Il n'y a sans doute pas de meilleure, d'ailleurs, façon de caractériser ce que serait une forme politique qui fonctionnerait ou un gouvernement légitime, mais elle est inapplicable. C'est l'objection que je vous ai tout à l'heure. Finalement, qui peut dire qu'il a vraiment consenti à vivre là où il vit, dans les conditions dans lesquelles il vit et sous le gouvernement qui régit son pays?
Oui, l'image de l'homme ficelé et jeté dans un bateau est très forte, parce que je ne pense pas que l'image du bateau soit venue comme ça, de manière anecdotique. Cela renvoie à l'une des métaphores du gouvernement, utilisée notamment par Platon pour condamner la démocratie. Celui qui doit gouverner doit être plus compétent, c'est le pilote. Et c'est une banalité que de dire que des gens embarqués dans un bateau acceptent d'obéir, du moins pour tout ce qui concerne la navigation, d'obéir au plus compétent, au capitaine du navire, par exemple. Et donc, c'est une condamnation de cette image en tant qu'elle ne peut, l'idée de ce consentement qui peut survenir, ça nous arrive de prendre un bateau, ou de monter dans un avion et de considérer que c'est le pilote qui doit diriger les opérations en matière de navigation, cette image-là n'est pas pertinente politiquement. C'est ça que cela veut dire. Et ce qui est encore plus fort dans cette objection de Hume, c'est l'idée que la notion de consentement ne peut pas à elle seule fonder l'obligation politique. Et alors, c'est assez subtil, parce que il ne s'oppose pas en même temps à l'idée que le consentement est à intervenir dans l'obligation politique. Simplement, ce consentement n'est pas suffisant. On ne peut pas, comme l'espérait Locke, fonder l'obligation politique sur le seul consentement et donc sur l'exercice de ma liberté à déléguer mes pouvoirs à des gouvernants ou à une assemblée, peu importe.
Ce que vous appelez l'obligation politique, c'est quoi? C'est jouer son rôle de citoyen?
C'est... Alors ça peut en faire partie, mais oui, en tant que citoyen, je suis comme j'entre en société. Eh bien, j'accepte les lois et j'accepte le gouvernement de ceux qui, à quelque titre, ont le droit de gouverner. Alors, la critique de Hume va très loin sur ce point et il a d'autres arguments. Et un peu plus loin dans ce texte, qui est absolument extraordinaire et très connu, qui s'appelle « Du contrat originel » ou « Du contrat primitif » selon les traductions, qui est une charge contre Locke et contre ses successeurs britannique, il invente une petite histoire dans un pays qui était gouverné par une monarchie acceptée. Un usurpateur s'impose et exerce une sorte de tyrannie, mais les gens se laissent faire. Puis, par quelques événements, l'héritier du trône réussit à chasser l'usurpateur et à reprendre le pouvoir. Et Hume dit, mais pourquoi, finalement, l'héritier du trône est-il mieux fondé à gouverner? Qu'est-ce qui justifie l'acceptation des membres, des habitants de ce royaume? Pourquoi serait-il plus légitime d'accepter le gouvernement de l'héritier du trône? Et son idée, c'est que le consentement n'explique pas cela. Parce que, d'une certaine manière, ils ont consenti à la tyrannie. Ah ben, ils se sont laissés faire.
C'est ça. Est-ce que laisser faire, est-ce consentir? Est-ce que ne pas réagir,
voilà,
est-ce consentir?
Il dit, voilà, puisqu'il se laissait faire face à cet usurpateur qu'il n'aimait pas, d'une certaine manière, il consentait. Maintenant, ils consentent, ils sont contents d'être gouvernés par l'héritier du trône, mais on a finalement deux formes de consentement. Donc le consentement n'est pas suffisant. C'est ça l'idée. Il ne s'agit pas de rejeter l'importance du consentement, mais à lui seul, le concept de consentement ne peut pas expliquer l'obligation politique. Et pour cette histoire donne une piste, et la piste suivante, elle est donnée par la fin de ce passage, où il explique, mais finalement, ils acceptent avec plaisir d'être gouvernés par l'héritier du trône, parce que leur conception est qu'il est celui qui mérite, qui a le droit, qui a le statut convenable pour gouverner. Et ça permet d'appuyer l'idée de Hume, qui complète en quelque sorte le consentement, c'est que finalement l'obligation politique est fondée sur l'opinion. Et cette opinion a deux sens. C'est d'abord, les gens considèrent qu'on a intérêt à être gouverné. Ils ont cette opinion-là. Et deuxième opinion, la première était relative à leur intérêt, et la deuxième, elle est relative au droit. Ils reconnaissent un droit de gouverner à certains personnages. Et alors, ce droit, il est lié à l'histoire, à l'évolution des idées, à la société, aux normes ambiantes.
Mais pardonnez-moi, est-ce que l'objection que fait Hume quant à l'insuffisance du consentement pour asseoir la légitimité d'un gouvernement ne tient pas à peut-être une mauvaise définition de ce qu'on entend par le consentement? Si on avait demandé à tous les sujets de ce souverain, de cet usurpateur, s'il consentait à obéir à cet usurpateur, sans doute aurait-il répondu non. Peut-on parler de consentement quand il n'y a qu'un silence, finalement? Il n'y a pas de oui, il n'y a pas d'expression du consentement. Oui. On suppose que consentement il y a parce qu'aucun mot n'est prononcé, parce qu'on pense que qui ne dit mot consent.
Oui, je pense que vous pointez une des faiblesses du passage de Hume, justement. C'est qu'il ne fait pas cette nuance et ce contraste dont on peut avoir besoin entre un consentement tacite, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous opposer au tyran parce que c'est trop coûteux, à l'usurpateur parce que c'est trop coûteux, mais en revanche, nous consentons de manière positive et nous pourrions même approuver, manifester notre acceptation dans le cas de l'héritier du trône parce que nous estimons que c'est la lignée monarchique qui doit gouverner. Donc je pense que vous pointez effectivement une faiblesse du raisonnement de Hume dans ce passage. En
tout cas. Et plus largement peut-être une faiblesse sans doute bien nécessaire du fonctionnement démocratique qui fait qu'on ne peut pas, dans l'exercice de la démocratie, faire en sorte que chaque citoyen ou chaque personne concernée puisse dire oui. C'est que nous sommes obligés, c'est peut-être ce que vous appelez le consensus justement tacite ou silencieux, de tenir le silence pour un acquiescement ou l'absence de protestation pour un acquiescement.
Oui, mais c'est une définition bien exigeante de la démocratie qui supposerait que tout le monde approuve toutes les décisions. C'est l'idée qu'il y a derrière votre question. La démocratie, ce serait le régime de l'unanimité.
Où chacun pourrait, chacun peut s'exprimer, chacun devrait. Si on base la démocratie ou l'exercice démocratique sur le consentement, alors chacun devrait pouvoir dire oui à chaque action qui est prise. Or, c'est intenable et inapplicable. Donc, on est obligé de tenir pour pouvoir avancer, pour pouvoir agir. Locke ne disait pas autre chose. Il parle vraiment de ça en termes pragmatiques, qu'il exprime l'urgence et la nécessité du consentement pour agir. Nous devons faire comme si il y avait un consentement.
Oui. C'est un pari. Alors là, je pense qu'il faut introduire une distinction. C'est tout régime politique suppose un minimum de consentement, sauf les tyrannies, à l'égard des règles de base de la vie sociale et du gouvernement et de la vie politique. Mais à l'intérieur de ces règles, il peut y avoir du désaccord. Mm-hmm. C'est la règle de majorité. La règle de majorité,
alors, venons-y,
vous êtes minoritaire, donc vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui est prise. Le consentement, là, il porte sur le fait que vous consentez à jouer les règles du jeu. Même si vous êtes minoritaire. Donc, il faut distinguer le consentement à l'égard des règles de décision ou des institutions de la politique et puis le consentement à l'égard des décisions elles-mêmes. C'est-à-dire que j'approuve la décision. C'est une autre idée. Et les deux s'articulent différemment, on va sans doute le voir, selon les règles de décision qui sont utilisées. Règles de majorité ou consensus apparent, règle de non-opposition.
Alors justement, arrêtons-nous un instant sur cette règle de la majorité qui fait que quand on décide que la manière la plus démocratique de décider, c'est de respecter la règle de la majorité, on exclut par définition un groupe de personnes, que sera la minorité de la décision finale. Enfin, là, ils vont décider contre la décision qui sera prise. C'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a quand même une grande violence inhérente à la règle de la majorité, qui est très difficile à tenir pour ceux qui font partie de la minorité. Il suffit de voir quand un président a été élu, ce qui a été le cas de nous autres Français récemment.
De temps en temps, oui.
Voilà, tous les 5 ans, dans notre pays. Il y a toujours une ceux qui n'ont pas voté pour le président, qui ne se sentent pas représentés, qui bien légitimement expriment là leur absence de consentement. Or, que faudrait-il leur répondre? Qu'ils consentent au jeu démocratique, et du coup, il faut accepter que le résultat soit celui issu de la majorité.
Oui. Mais il me paraît qu'il serait difficile de faire autrement. Il y a donc bien 2 niveaux. Le consentement et l'acceptation de règles, d'institutions, d'une part, et deuxièmement, l'approbation ou la désapprobation des décisions et des choix dans le cadre de ces institutions. On ne peut pas penser toute l'obligation politique à partir de la seule règle de majorité et sur une seule décision. Bon, d'abord, nous ne sommes pas toujours minoritaires. Nous sommes minoritaires pour certaines décisions, mais pas toujours. Par ailleurs, néanmoins, nous pouvons être toujours minoritaires. Prenez, c'est un très bel exemple, les élections présidentielles. On pouvait dire, il y a quelque temps, je pense que c'est de moins en moins tenable, que la règle de majorité présidentielle a quelque chose de profondément injuste à l'égard des extrêmes. Si vous étiez d'extrême droite ou d'extrême gauche, il y a quelque temps, vous n'aviez aucune chance d'avoir votre candidat élu. C'est sur cette base, d'ailleurs, que certains philosophes politiques ou politologues préconisent l'usage du tirage au sort. Je prends parfois l'exemple de l'élection de 2007. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais si vous comptiez le score de l'extrême gauche et le score de l'extrême droite, ils avaient peut-être à eux deux 14% de chance. Bon. Donc, il y a 14% des électeurs qui se sont prononcés qui, de fait, n'avaient aucune chance de voir leur candidat l'emporter. Alors, un raisonnement qui considère que la règle de majorité est injuste parce qu'elle ne donne aucune chance aux ultra-minoritaires de l'emporter, c'est un raisonnement très intéressant. Alors, il faut répondre à cette objection. Et justement, la démocratie dans ce cas-là et la règle de majorité n'a pas pour but de donner à chacun la même chance de voir sa préférence l'emporter. Sinon, il faudrait tirer au sort. Le tirage au sort, c'est la bonne méthode pour faire en sorte que chacun ait la même chance de voir son candidat l'emporter.
Et pourquoi pas?
Et alors, on pourrait faire ce qui est préconisé par certains, qui est le vote pondéré. Donc, on fait d'abord une première élection. On fait une élection qui est en quelque sorte indicative. Cette élection détermine, par exemple, que Mme Marine Le Pen a 20% de suffrage, et on va faire un tirage au sort où on lui affectera 20% de chances de l'emporter. Bon. Voilà le tirage au sort pondéré. Mais justement, je ne pense pas que la démocratie et l'usage et la décision collective n'est pas fondée nécessairement, et à mon avis pas du tout, sur l'idée que chacun a la même chance de voir sa préférence l'emporter. Sinon, on fait comme si les décisions collectives et la démocratie étaient simplement un problème de partage du gâteau. Mais être en démocratie, c'est pas partager un gâteau. Il y a certaines dimensions. On peut parler de la redistribution, qui a une dimension partage du gâteau. Mais la vie politique, ça n'est pas un partage du gâteau. Ce sont des décisions qui concernent l'ensemble d'un corps politique. Et dans ce cas, l'égalité qui est prônée par la démocratie, selon moi, c'est le fait que chacun ait une voix, que chacun puisse peser de la même manière sur la décision. Chacun a le même poids à l'égard de la décision. Et la règle qui permet cela, c'est la règle de majorité. Je crois qu'il faut, pour bien comprendre la règle de majorité, il faut comprendre que la décision collective, ce n'est pas un partage équitable. Ce n'est pas une manière de partager un gâteau. Alors le problème, il y a un problème qui reste, c'est le cas des minorités stables, permanentes, qui n'ont jamais aucune chance sur aucune décision. Et ce cas nous donne les limites de la règle de majorité. Les vraies limites de la règle de majorité, ce n'est pas que quelques-uns aient aucune chance, dans un certain état stable de la distribution des opinions, n'aient aucune chance de voir leurs préférences satisfaites. Le problème des minorités permanentes, c'est que c'est constant. Et alors, cela nous invite à prendre en considération quelque chose de fondamental, qui sont les limites de la règle de majorité. Et d'une certaine manière, ces limites ont été posées indirectement par John Locke. On ne peut pas imaginer qu'une majorité, par exemple, vous êtes en société. On ne peut pas imaginer que, de manière légitime, la majorité vote une décision qui aille à l'encontre des droits élémentaires, des biens et même de la survie de la minorité. Ça n'est pas possible.
On peut l'imaginer.
On pourrait l'imaginer, mais ce serait une conception stupide de la règle de majorité. Ce serait l'idée que la règle de majorité, c'est une espèce de procédure absolue. Bon, on a décidé qu'on prenait les décisions à la majorité.
Et du coup, le pouvoir était libre.
Quelle que soit la décision, la majorité doit l'emporter. C'est des idées qui ont pu l'emporter dans certains pays, qui étaient assez fortes, par exemple, au Royaume-Uni. Bon. Et en fait, ça n'est pas possible. Et Locke le dit assez explicitement. Si vous êtes en société, si vous faites le pacte social, si vous entrez en société, c'est pour certains biens, c'est pour assurer la sécurité, la prospérité. Mais si on prend des décisions à la majorité qui vont à l'encontre des raisons pour lesquelles vous êtes entré en société, eh bien vous pouvez vous retirer du contrat social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dit en termes très abstraits par Locke, et c'est repris par d'autres ensuite. Ça veut dire que la majorité ne s'impose pas absolument. Il y a des conditions de l'obligation majoritaire. Et l'une des conditions, c'est justement que la décision majoritaire ne mette pas en cause ce qui unit la minorité à la majorité.
Ce qui est très compliqué à établir, hein, de manière concrète.
Tout à fait. Et donc on peut toujours discuter. Et c'est là qu'il y a une certaine forme d'élaboration du consentement majoritaire et minoritaire. C'est que quand je suis mis en minorité, je dois me demander, mais est-ce que c'est pas parce qu'on a décidé une fois pour toutes que la règle de majorité valait que je dois nécessairement tout de suite me soumettre à la majorité? Je peux me dire, mais est-ce que cette décision ne met pas en cause les raisons pour lesquelles je suis en société? Et à ce moment-là, je suis fondé soit à consentir, soit à ne pas consentir à la décision.
Mais là, on retombe dans un régime d'abstraction qui était l'accusation que Hume faisait à Locke, c'est que, est-ce que je peux vraiment, ai-je les moyens, mais vraiment matériels, temporels, pour décider un jour de me retirer de cette société que je juge illégitime? Une telle décision est très alléchante quand on est en opposition vis-à-vis du gouvernement, qu'on ne sent pas représentatif.
Oui.
Enfin, on ne peut pas. C'est exactement ce que dit Hume à Locke. On ne peut pas quitter le navire d'un coup. Donc il y a un consentement qui est non seulement tacite, mais qui est contraint. Et ce n'est pas du tout un consentement, c'est ça que je veux dire. C'est que la notion de consentement,
oui,
elle trouve une autre limite,
oui,
là,
oui,
aussi.
Oui, tout à fait.
On peut vivre en démocratie et subir le régime d'une majorité et subir les décisions qui sont prises,
oui,
en notre nom,
oui,
sans qu'aucun consentement il y ait. Et prendre pour un consentement le fait que, aucune action n'est faite à l'encontre du gouvernement est un fondement illégitime.
Oui, mais je pense qu'il faut maintenir un contraste entre deux choses. Je suis minoritaire, mais j'accepte d'être minoritaire dans ce cas-là parce que j'estime que le jeu a été joué correctement. Et puis, deuxième situation, je suis minoritaire et je ne l'accepte pas parce que j'estime que la manière dont la décision a été prise n'était pas correcte, ou parce que j'estime que la décision met en cause mon appartenance au corps politique, et à ce moment-là, je cède parce que je suis soumis. Mais je suis soumis parce que je n'ai pas d'autre solution.
Mais aussi, on peut aussi consentir à l'exercice démocratique qui a eu lieu et qui a conduit à élire un certain président, tout en s'opposant.
Oui, mais alors ça, c'est
on peut reconnaître que Trump a été démocratiquement élu tout en faisant tout pour essayer
tout
s'y opposer.
Mais alors là, parce qu'on passe un peu vite, mais c'est normal, à une situation qui est l'épure, la règle de majorité, l'assemblée, qui peut fonctionner pour un département de philosophie où on prend des décisions, le comité d'une revue, un club sportif, une entreprise, et puis ensuite un pays. Mais la règle de majorité, si on parle de démocratie, la démocratie, c'est pas seulement l'usage de la règle de majorité. Ouais. La règle de majorité est utilisée dans différentes instances, dans des élections générales, dans les parlements. Et ensuite, vous avez des institutions, vous avez des constitutions, des cours constitutionnelles. Et ici... intervient quelque chose qui est extérieur à la règle de majorité, qui d'ailleurs n'est pas mentionné dans les textes fondateurs de la démocratie représentative. Un des aspects fondamentaux de la démocratie représentative, comme l'a bien montré dans son livre Bernard Manin, dans son livre qui s'appelle « Les principes du gouvernement représentatif », c'est que les représentés ont le droit de manifester leur désaccord. Alors, c'est une manifestation de désaccord. Ça n'est pas le droit de désobéir, c'est autre chose. Hein. Mais donc, on peut contester. Mais ça fait partie de la démocratie. Mais ça n'entre pas dans le raisonnement, dans les raisonnements que nous devons mobiliser pour comprendre pourquoi une règle de majorité est justifiable et justifiée ou non, ou pourquoi une décision majoritaire est acceptable ou non. C'est autre chose. Là, on entre dans dans les aspects très compliqués de la démocratie représentative.
Alors, il y a d'autres façons, et on a tendance à l'oublier, peut-être quand on vit dans une démocratie occidentale qui fonctionne beaucoup quand même avec la règle de la majorité, même s'il y a d'autres règles qui sont respectées, évidemment. On a tendance à oublier qu'il y a d'autres manières de prendre des décisions à l'échelle politique, que ce soit à l'échelle collective réduite au sein d'un groupe ou à l'échelle d'un pays. On va écouter un autre exemple, justement, de prise de décision qui est assez inattendu et passionnant, qui est raconté par Nelson Mandela. Dans un texte, son texte « Un long chemin vers la liberté », où il décrit ce qu'on pourrait appeler l'amour du consensus qui s'exprime de manière assez particulière et qui a lieu pendant les réunions tribales, qu'il décrit de cette façon.
J'ai souvent observé les réunions tribales qui se tenaient régulièrement à la grande demeure et elles m'ont beaucoup appris. Elles n'étaient pas programmées de façon régulière. On les convoquait selon la nécessité, et on y discutait des questions nationales, telles que la sécheresse, le tri du bétail, la politique des magistrats et les nouvelles lois décrétées par le gouvernement. Tous les Tembous étaient libres de venir, et beaucoup le faisaient, à cheval ou à pied. Les gens parlaient sans être interrompus, et les réunions duraient des heures. Le gouvernement avait comme fondement la liberté d'expression de tous les hommes, égaux en tant que citoyens. Pendant cette journée, on servait un grand banquet et j'ai eu souvent mal au ventre pour avoir trop mangé en écoutant les orateurs. Les réunions duraient jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une sorte de consensus. Elles ne pouvaient se terminer qu'avec l'unanimité du tout. Cependant, l'unanimité pouvait consister à ne pas être d'accord et à attendre un moment plus propice pour proposer une solution. La démocratie signifiait qu'on devait écouter tous les hommes et qu'on devait prendre une décision ensemble en tant que peuple. La règle de majorité était une notion étrangère. Une minorité ne devait pas être écrasée par une majorité. Ce n'était qu'à la fin de la réunion, quand le soleil se couchait, que le régent parlait. Il avait pour but de résumer ce qui avait été dit et de trouver un consensus entre les diverses opinions. Mais on ne devait imposer aucune conclusion à ceux qui n'étaient pas d'accord. Si l'on ne pouvait parvenir à aucun accord, il fallait tenir une autre réunion. À la fin du conseil, un chanteur ou un poète faisait l'éloge des anciens rois et un mélange de compliments et de satires des chefs présents. Puis, le public, conduit par le régent, éclatait de rire.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Ce texte de Nelson Mandela décrit la démocratie en ces termes, Philippe Urfalino. Enfin, la démocratie signifiait qu'on devait écouter tous les hommes et qu'on devait prendre une décision ensemble en tant que peuple. La règle de majorité était une notion étrangère, on dirait qu'il vous a écouté. Une minorité ne devait pas être écrasée par une majorité. Et finalement, le principe, c'est qu'on ne devait imposer aucune conclusion à ceux qui n'étaient pas d'accord. C'est ce qu'on appelle un consensus, ce que décrit ici Mandela.
Oui, alors le problème, c'est qu'il faut. Je pense qu'il ne faut pas parler de consensus parce que
lui même en parle.
Mais oui, mais bien sûr, tout à fait. Mais parce que l'expression est tout à fait égarante. Parce que si on ouvre le dictionnaire, consensus, c'est la convergence des opinions, plus ou moins fortes, mais au moins très fortes. C'est peut-être pas l'unanimité, mais c'est une forte convergence. En fait, si on écoute bien dans ce cas, on lit, on relit, on voit d'abord l'importance de la délibération. Et d'ailleurs, ce texte a été longuement cité dans un ouvrage de Amartya Sen sur la démocratie des autres, avec l'idée qu'en Afrique, en Inde, il y a une autre manière de penser la démocratie qui s'appuie sur la délibération de tous.
C'est l'économiste Amartya Sen.
Voilà, tout à fait.
L'économie.
Alors, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on veut que tout le monde puisse prendre la parole et évidemment manifester son désaccord. Mais derrière, il y a bien une décision. Alors, la décision va pouvoir être reportée, mais à la fin des fins, on fera une autre réunion et il faudra bien qu'à la fin des fins, il y ait une décision. Mais alors, comment est-elle obtenue, cette décision? Elle est censée être obtenue au consensus. Mais comment on fait? Comment on fait pour savoir s'il y a cette convergence?
Surtout, comment on fait pour qu'à l'issue d'une réunion, une décision ait lieu? C'est quand même...
Alors, déjà,
on a fait l'expérience, c'est que c'est
déjà, c'est une
possible.
Première difficulté. Mais si on parle de consensus, il faut se demander, mais comment on sait qu'il y a un consensus? Puisqu'il n'y a pas de vote. Comment on sait que les gens sont d'accord? Alors, ce qui est implicite et qui apparaît lorsqu'on regarde de manière très précise la description qui est donnée par Mandela ou par bien d'autres, dans d'autres sociétés, dans d'autres institutions qui utilisent également cette manière de décider, c'est qu'en fait, la décision est prise quand une proposition est émise, une proposition de décision, et qu'elle n'est plus contestée. Il évoque le régent qui, à un moment donné, fait une proposition, essaye de trouver une idée de décision qui pourrait obtenir la convergence. Mais la convergence, comment elle est manifestée? Elle est manifestée par l'absence d'opposition. Et là, on est dans l'autre sens du mot consentement. C'est que face à une proposition, s'il n'y a pas d'opposition, cette proposition est transformée en décision. Alors, ce qu'il y a en général, c'est que quelques-uns approuvent et la plupart des autres ne disent rien.
Et ceux qui, oui, c'est ça. Ou alors ceux qui s'expriment finissent par se fatiguer. C'est ce que dit Mandela.
Alors,
au bout d'un moment, ils arrêtent de
se... Si on prend l'ensemble du processus, oui. Et comme il le dit, ça peut vouloir dire accepter de ne pas manifester son désagrément et attendre un autre moment pour le manifester et proposer une autre décision plus tard. Donc, si vous voulez, le consensus, il se définit à l'envers. Non pas par l'expression convergente d'opinion, mais par l'absence d'opposition explicite.
Par le silence.
Par le silence. Alors, c'est un changement de logique complet par rapport à la règle de majorité. C'est-à-dire, d'un point de vue logique, la règle de majorité suppose une compétition des expressions d'opinion. Hein? S'il y a une proposition, il y a ceux qui approuvent la proposition, il y a ceux qui la désapprouvent. Dans le cas de ce mode de décision, le contraste important n'est pas entre ceux qui approuvent et ceux qui désapprouvent. Il est entre ceux qui désapprouvent explicitement et qui à ce moment-là bloquent la proposition, il faut reprendre la discussion, et ceux qui ne désapprouvent pas explicitement, qui n'expriment pas la désapprobation. Donc ce n'est pas du tout la même logique, n'est-ce pas? Mais donc, à la fin des fins, il y a bien une décision. Ça peut prendre beaucoup de temps.
Bah oui.
C'est un mode de décision qui n'est pas économique, mais qui est souvent utilisé, qui était souvent utilisé dans des sociétés qui avaient beaucoup de temps, notamment parce que ce sont les hommes qui prennent les décisions et ce sont les femmes qui travaillent pendant ce temps-là. Mais la palabre est très coûteuse en temps. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je parle pas de consensus parce que l'expression est égarante. Je préfère parler soit de consensus apparent, mais ça peut paraître négatif. C'est plutôt ce que j'appelle la règle de non-opposition. La décision est prise quand il n'y a plus d'opposition exprimée.
Sans contrainte exercée, parce que ça peut être compris
alors,
de différentes façons.
Deux possibilités. Parce que on peut répondre maintenant à votre question. Mais alors comment fait-on pour prendre des décisions? Puisque ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est que comme dans la vraie règle d'unanimité, où tout le monde vote et la décision est prise si tout le monde a voté pareil, comme dans ce cas-là, il y a un droit de veto de chacun. Puisque la règle est claire. Quelqu'un manifeste une opposition, un désaccord, une objection. Et même dans ce type de société, il suffit, parce que généralement ce sont des sociétés où le conflit ne s'exprime pas facilement. parce qu'il y a des très fortes interdépendances entre les individus. Il y a des risques de rétorsion. Donc très souvent, il suffit que quelqu'un dise quelque chose qui est un petit peu hors sujet, on comprend que c'est une objection, on comprend qu'il n'est pas d'accord. Et la règle absolue, c'est que à ce moment-là, la proposition n'est pas retenue. Donc il y a un droit de veto. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment arrive-t-il à prendre des décisions ? Oui. Alors ils y arrivent. Ça prend du temps, mais ils y arrivent. Deux possibilités. La pression, la menace, implicite, cachée, mais je sais que telle personne a du pouvoir et que si je m'oppose à la proposition que visiblement il approuve, eh bien, je subirai un certain nombre de sanctions. L'autre possibilité, c'est la pression morale.
Donc dans les deux cas, c'est une pression ?
Tout à fait.
Bon, on choisit entre la pression ou la réunion. Mandela disait, si l'on ne pouvait parvenir à un accord, il fallait tenir une autre réunion. Quittons-nous avec une réunion.
On va faire une réunion qui servira préparation à une série de réunions d'où sortira une motion qui sera votée en réunion afin de trouver la question qui sera posée en réunion pour pouvoir dire si oui ou non. Il faut qu'on fasse une réunion ou qu'on reporte la réunion. Y en a qui sont intoxiqués quand font une petit déjeuner. Trois ou quatre dans la matinée, deux à la place du déjeuner, quelques-unes avant le goûter. Et puis une paire dans la soirée, ce qui fait qu'en fin de journée, ils ont alors tout oublié. Ça commence toujours à la boue.
Merci beaucoup Philippe Orfalino d'être venu nous parler de consentement en politique aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs notamment au numéro 55 de Raison politique qui portait sur le thème suivant, décider à la majorité. Pourquoi ? On a essayé de répondre à cette question aujourd'hui sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver tout de suite le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle et bonjour à toutes et à tous.
De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, début octobre est sorti un livre passionnant aux éditions Anna Moza, Les larmes de Rome, le pouvoir de pleurer dans l'Antiquité. Alors c'est un livre d'histoire écrit par Sarah Ray, mais il propose néanmoins toute une réflexion philosophique sur les larmes à partir des stoïciens notamment. Et il m'a amené à me demander, et les philosophes alors, que disent-ils de leur côté sur les larmes ? Qui en a parlé ? Comment ? Quelle place leur accorde-t-il ? Les larmes sont-elles définitivement la marque d'un moment de faiblesse qu'il s'agit de stopper ? Ou, connaissant l'amour des philosophes pour le paradoxe, ont-elles en fait une puissance qu'il s'agit d'exploiter ?
Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens.
Début 2016, souvenez-vous, Barack Obama était encore président des États-Unis et évoquant les vies perdues de ses enfants lors de fusillades, quelques larmes avaient alors interrompu son discours. Grand moment d'émotion, c'était aussi un grand moment politique et c'est bien par cette ambivalence des larmes entre passivité et stratégie, entre intimité et publicité que Sarah Ray ouvre son livre donc sur le pouvoir de pleurer. Voici alors la question, que disent ces larmes, ce liquide en surplus, éphémère, futile, qu'il s'agit d'écraser sur ses joues, mais que l'on ne peut plus contenir. Chagrin irréfléchi qu'il s'agit de ménager selon Sénèque, les larmes auraient-elles en fait plus qu'une signification, une efficace, un pouvoir ? Et alors lequel ? Eh bien comme le rappelle Sarah Ray, selon les philosophes antiques, il y a une fonctionnalité des larmes, prouver son sens de la justice. Et Sénèque dit ainsi qu'il ne faut pas entièrement les arrêter. Mais se servir des larmes, n'est-ce pas aussi les trahir ? Trahir leur pure spontanéité, leur pure inutilité, la pureté en fait tout simplement de leur intention. Les larmes peuvent-elles être des armes? C'est au fond la question et celle que pose pour sa part le philosophe Georges Didier Huberman à partir du film d'Eisenstein de 1925, Le cuirassé Potemkin. Film qui montre, selon son analyse, je cite, « comment un peuple s'émeut d'une mort au point de passer à l'émeute ». Et de fait, à côté de cette perspective antique et stoïque des larmes, trois essais récents ont réhabilité les larmes tout en les rendant à leur véritable sens, c'est-à-dire à leur pathos. Alors il y a d'abord eu Catherine Chalier avec son traité des larmes sur la fragilité divine, puis Michael Fossel que l'on avait entendu à ce micro des chemins dans Le temps de la consolation avec sa quête des larmes de Saint-Augustin, et donc Georges Didier Huberman dans Peuple en larmes, peuple en armes. Comment donc des larmes peuvent-elles être des armes sans non plus être des moyens, sans être non plus instrumentalisées, mais tout en étant rendues à leur pathos essentiel? C'est le problème que posent ces essais et qui se résout en fait dans l'idée de communauté. Car qu'est-ce qui peut rassembler un peuple? Eh bien pas seulement une langue, un territoire ou des valeurs, mais aussi des émotions. Les larmes n'agissent pas seules mais en contexte, lorsqu'elles sont vues, comprises, partagées. Et en ce sens, les larmes ne sont pas des armes, un pouvoir, mais bien un impouvoir qui rassemble et unit. Mais qu'il s'agisse d'une union grâce à un geste de consolation, grâce à Dieu, ou encore par le passage de l'émotion à la motion, c'est-à-dire au mouvement, peut-on vraiment dépasser ce passé des larmes?
We can talk about your child.
Our child.
Thank you.
And will you be happy, Charlotte?
Oh, Jerry, don't let us ask for the moon. We have the stars.
Dans ce panorama sur les larmes des philosophes, on ne peut pas passer à côté de deux philosophes majeurs, Émile Cioran, à qui l'on doit ses aphorismes « Des larmes et des saints », et puis ça va vous plaire, Adèle, à côté de Stanley Cavell, qui à partir de quatre mélodrames dont une femme cherche son destin, dont on vient d'entendre un extrait, dessine une protestation des larmes. Eh bien, avec Cioran et Cavell, ce qui est intéressant, c'est que les larmes ne sont ni un pouvoir, ni un impouvoir, mais un accès, une ouverture. Alors certes à une intimité, comme avec Barack Obama qui se livre devant nous, certes à l'autre et à une communauté, comme avec le film d'Eisenstein, mais aussi à la connaissance. Mais alors comment? Pourquoi les larmes ne sont-elles pas qu'un mur, un profond mystère dont on ne sait pas la cause et le remède, mais aussi une brèche? Eh bien, c'est que pour Cavell, la femme inconnue, celle qui pleure, c'est aussi celle qui se montre et que l'on veut sauver. Et que pour Cioran, et dit en un seul aphorisme, c'est seulement à travers les larmes que nous accédons à la connaissance et que nous comprenons comment on peut devenir saint après avoir été un homme.
Vous nous donnez envie de pleurer, Géraldine, mais dans le bon sens du terme.
De joie.
De joie, de contentement. Merci, merci pour ces réflexions. Merci d'avoir parlé de Cavell. Et donc, rappelez-nous le titre du livre que vous citiez au début de votre chronique.
Oui, et qui m'a donné envie, du coup, de parler des larmes. C'est l'excellent livre de Sarah Ray, Les larmes de Rome. C'est paru aux éditions Anamosa dans un livre tout à fait agréable à lire. Il faut quand même signaler l'édition. Elle est très jolie, très agréable.
Merci, Géraldine. C'est signalé. Et votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Maude Markiewicz, Géraldine Mostasavoy bien sûr, Louis Servet qui vient de rejoindre cette équipe et à qui je souhaite la bienvenue, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, YouTube Diego Aclopez qui est à la prise de son aujourd'hui, Anne Brissier à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur le consentement. Demain, nous parlerons de Camus. Consentir, c'est ne pas se résigner, en compagnie de la philosophe Marilyn Maezzo. D'ici là, pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie, où vous trouverez les indications bibliographiques et musicales. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter, où nous mettons l'émission en ligne quotidiennement et attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.